RMC Intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
Et bien sûr, on vous attend au 32-16 et sur Twitter tout au long de la soirée et de la nuit. La cérémonie de clôture, vous n'en raterez pas une miette avec Gilbert Bribois aux manettes de l'info, de l'actu, de la culture olympique, mais aussi détente, hein, tranquille. Hein, allez-y, venez faire la fête avec nos envoyés spéciaux. Il est 23h01, c'est l'heure du flash olympique.
RMC, Rio 2016.
Avec Benoît Boutron.
Il a réalisé son rêve. Tony Yoka est devenu champion olympique de boxe en battant le Britannique Joe Joyce en finale. Yoka succède à Brahim Asloum, dernier boxeur français champion olympique. C'était à Sydney en 2000. Tony Yoka qui égale également la performance de sa compagne Estelle Mosselli, elle aussi championne olympique de boxe à Rio sur ces Jeux olympiques. La valeur de cette médaille est donc inestimable.
Elle représente toute ma vie parce que contrairement aux autres qui sont arrivés dans la boxe assez tard ou vers 12-13 ans, moi je suis né dedans. Toute ma famille est boxeur. Depuis que je suis petit, mon père me rabâche. Tu seras champion olympique, tu seras champion olympique, tu seras champion olympique. Je me dis putain, il est fou. En 2012, il m'a dit vas-y, t'as pas assez d'expérience, t'as 20 ans, t'es pas encore assez mature, donc vas-y. Mais en 2016, ça sera pour toi. Et je me suis toujours demandé est-ce que je vais rendre mon père fier, est-ce que je vais rendre ma famille fière, parce que je sais que j'en ai les capacités, mais le tout c'est d'assumer. Avant de monter sur le ring, je me dis toujours qu'il faut, voilà, tu t'es entraîné, t'as parlé, t'as dit que t'étais venu là pour l'or, maintenant est-ce que t'es un vrai homme ou est-ce que tu n'es pas ?
Tony Yoka en direct sur RMC. Pas de médaille d'or en revanche pour les handballeurs français battus 28 à 26 par le Danemark en finale du tournoi olympique. Les experts visaient pourtant un troisième sacre consécutif pour l'ailier Michael Guigou. La réussite a changé de camp ce soir.
Il aurait fallu peut-être un peu de lucidité en plus quand je vois. Bah, on n'a pas forcément très bien joué en attaque. On a été poussif, on a porté trop la balle. Après, bah, les Danois, félicitations à eux déjà ils ont fait un bon match. C'est dur de gagner tout le temps parce qu'on crée beaucoup de frustration chez nos adversaires. Les Danois, on était allés les corriger chez eux. Donc à un moment, je crois que c'était la quatrième ou cinquième finale qu'ils avaient perdu en 5 ans. Donc à un moment, je crois que les joueurs ont du talent et en ont marre de perdre. Et à un moment, ben voilà, ils sortent le gros match qu'ils sortent aujourd'hui.
Michael Guigou, lui aussi en direct sur RMC. La France termine 7e du classement des nations avec 42 médailles, 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. Et puis en basket, c'est le dernier résultat de ces Jeux Olympiques. La Team USA a écrasé la Serbie en finale, le score 96 à 66.
Merci Benoît. Flash Olympique toutes les demi-heures sur RMC. Alors, tout au long de la nuit, on va évidemment revivre ces Jeux Olympiques avec les meilleurs moments à l'antenne, les médailles, hein, replay des médailles et les commentaires de nos envoyés spéciaux, vos réactions au 32-16 et sur Twitter, et puis la cérémonie avec Gilbert Bribois où là aussi il y aura des petites surprises. Justement, un très bon moment d'antenne, c'était il y a quelques minutes sur RMC, Estelle Mosselli et Tony Yoka, le couple en or de la boxe française, était à l'antenne, donc dans l'intégrale Rio 2016. On revit ce moment particulier et ensuite ce sera Denis Masseglia qui viendra faire le bilan de ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Et salut Tony.
Salut, salut.
Quel bonheur. Hein.
Super, super, franchement, tant d'émotions.
T'en es où là exactement là? Tu redescends de ton nuage, tu es encore
là,
dans l'euphorie?
Pas encore parce que voilà, tout le monde me saute dessus, ça prend des photos, je prends mes parents dans les bras, toute ma famille, donc voilà, j'ai pas eu encore vraiment le temps de faire descendre la pression.
Dis-moi, t'es voilà. Un sacré chanceux quand même, ta compagne, bon, qui en plus a une médaille d'or, t'as tes potes, t'as des légendes du sport olympique, Teddy Riner, Brahim Asloum, toute l'équipe de France, des supporters, tu pouvais pas rêver mieux quand même.
Franchement, je pouvais pas rêver mieux comme sacre. Maintenant, voilà, j'ai bossé pour. Hein, pour on a fait énormément de sacrifices, Estelle et moi, pour que nos familles puissent venir ici. Il y a plus de 22 personnes qui sont venues. Au fur et à mesure des tours qu'on passait, on voyait que les potes, voilà, ils supportaient. Ils se sont dit bon, nous on a fini nos compétitions, comme Teddy, comme Harold Correa, comme Grégory Bogier. Ils se sont dit pourquoi pas, c'est juste à côté du village, pourquoi pas venir et supporter, donner de la force quoi.
Ouais, pourquoi pas venir, c'est peut-être un des temps forts aussi des Jeux Olympiques. C'était
forcément,
voilà, c'était un moment tendu.
Le dernier jour, c'est la dernière médaille d'or possible. Donc voilà, ils sont tous venus, ils ont tous entendu. Et franchement, sur le ring, j'étais transcendé, j'étais plus moi-même.
Qu'est-ce qui t'a le plus porté dans ce tournoi olympique? Est-ce que c'est la présence d'Estelle? Est-ce que c'est cette solidarité de l'équipe de France? Ou c'est encore tout. Autre chose?
Tout, vraiment, toute cette équipe. Cette équipe, elle a été magnifique. Ça fait 4 ans qu'on bosse. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a commencé de très très bas parce qu'on avait une équipe toute nouvelle avec moi qui avait fait les Jeux Olympiques. J'étais plus ancien. Il fallait repartir de zéro avec des jeunes. On a vraiment beaucoup bossé. On s'est accrochés les uns les autres. On s'appelle la team solide. Il y a eu Estelle parce que forcément on vit ensemble, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble. Et aujourd'hui d'être les deux seuls médaillés d'or de la boxe, c'est magnifique. On se dit que putain, on l'a fait.
Tony, je voudrais que tu me donnes 2-3 explications sur ce que tu as dit tout à l'heure en direct, parce que je veux savoir ce qui se passe avec ta cheville. On rappelle qu'en demi-finale, elle a un peu tourné. Tout de suite, tout le monde a été très rassurant en disant c'est pas grand chose, ça ira pour dimanche, etc. Là, tu nous as dit que tu avais un ligament arraché.
Ah ouais, j'ai fait une écho le soir du combat, j'ai un ligament arraché. Et voilà, il me restait un combat. Je me suis dit qu'après tout ce que j'ai enduré, c'est pas un ligament qui va m'empêcher d'aller chercher ce titre olympique. Donc voilà.
Mais du coup, ça t'a gêné pendant le combat?
Franchement, écoutez, à chaque fois que j'ai une blessure, que ce soit au pied, à la main, à la tête, et que je suis monté sur le ring, je suis tellement déterminé que je le sens plus.
T'as boxé strappé ou que t'as une protection quand même?
J'ai strappé. J'avais du mal à marcher ce matin. Mais ça s'est même pas vu sur le ring parce que voilà, j'y suis allé à fond et je me suis dit s'il faut qu'elle pète aujourd'hui, elle va péter.
C'est arraché ou c'est déchiré?
Et le ligament est arraché.
D'accord, donc là
ça s'est pas vu en tout cas.
Enfin... Non, bah non, c'est clair que bah non, forcément, je t'ai dit.
Je vais essayer de boxer avec un ligament arraché moi aussi, puis on va voir.
En finale des championnats du monde, j'avais la main pratiquement pétée, je me suis fait infiltrer une demi-heure avant et pourtant ça m'a empêché de gagner.
Tu as dédié un peu cette victoire et vous l'avez tous un peu fait à travers vos médailles, Alexis Vastine. S'il était là aujourd'hui avec nous, enfin je sais qu'il est là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Je jure qu'on l'a fait. Ça n'a pas été top pour lui sur les deux Olympiades qu'il a fait. Maintenant voilà, on a voulu faire tout ça aussi un peu pour lui et dédicacer nos médailles à Alexis parce que 6 médailles c'est un record et surtout 2 en or. On sait très bien qu'à Pékin comme à Londres, il aurait certainement une médaille d'or s'il n'y avait pas eu ce problème d'arbitrage. Donc on tenait à en ramener quelques-unes en or pour pouvoir lui dédier.
Et donc les 2 en or, c'est pour Tony qui est avec nous et Estelle, sa compagne qui normalement a dû nous rejoindre. Estelle?
Oui, je suis là.
Salut Estelle.
Bon, alors là, c'est carton plein. Là. Qu'est-ce que vous devez vivre un truc, mais complètement.
En fait, ils ont les noces d'or. Les noces d'or, même le mariage.
C'est exactement ça. Bravo Isa. Tu vis un truc de dingue là, Estelle, non?
Ouais, c'est magique. C'est magique. C'est tellement de travail derrière tout ça. C'est un objectif qu'on s'était fixé depuis très longtemps. Même avant d'être champion du monde, on parlait des jeux et on s'est dit, imagine, on devient champion ensemble. Imagine, on ramène 2 médailles d'or à la maison. La joie que ça pourrait nous procurer, que ça pourrait procurer à tout notre entourage, à nos proches, à notre famille et à tellement de gens qui peut-être s'identifieraient à nous et auraient envie d'accomplir leur objectif, d'accomplir leur rêve. On l'a fait, donc maintenant on savoure chaque moment, vraiment.
Comment tu as vécu la finale de Tony, Estelle?
Moi j'étais survoltée. J'ai crié, je pense que je ne me suis pas arrêtée une seconde de crier. Tellement j'avais envie de lui donner mon énergie, ma force et qu'il m'entende aussi. Parce que c'est vrai que quand on est dans le ring, on entend crier mais on n'arrive pas forcément à distinguer les voix. Donc j'étais à fond, je voulais seulement qu'il gagne chaque round, qu'il passe au-dessus des coups de l'adversaire. De peut-être ce mal qu'il avait au niveau de la cheville, puisqu'il s'était fait mal avant ce combat-là. Et ça a marché. Et il a très bien boxé. Il a fait vraiment un très beau combat. Il a emporté le premier round, il a emporté le deuxième round. Et au troisième, il fallait juste terminer le travail.
Alors, qu'est-ce qui est le plus stressant, Tony et Estelle? C'est de boxer soi-même ou c'est de voir l'autre boxer?
Ah, je pense que c'est de voir l'autre boxer. Parce que quand on boxe, vous savez, à partir du premier coup de gong, le stress, il part. À partir du moment où on est dedans, on est vraiment concentré sur notre combat, le stress y part parce que voilà, on est concentré sur notre job. Et quand l'autre il boxe, en fait on peut rien faire. On peut rien faire à part crier et ça c'est super stressant en fait de ne pas avoir la même mise dessus.
Pareil pour toi,
ouais.
Estelle.
Ouais, ouais, exactement. C'est quand l'autre boxe, c'est énormément de stress tout au long du combat. Ça reste un combat, hein. Donc il y a forcément le risque de prendre un mauvais coup. Et on a peur pour l'autre. Toujours peur pour l'autre. Toujours peur qu'il se fasse mal, qu'il surmonte pas les rounds. C'est très dur à vivre de l'extérieur, mais bon, la crainte disparaît au fur et à mesure des rounds quand on voit qu'il gagne.
Et par rapport à ça, comment t'as réussi toi à te remobiliser? Parce que voir Tony matcher dans sa demi-finale avant ta finale, je sais qu'il y a eu discussion à savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Vous deux, vous en aviez parlé ensemble aussi, vous avez pris la décision avec les coachs et les TN et tout ça.
Oui, après nous on a quand même cette rigueur et on connaît notre travail, on sait ce qu'on a à faire sur le ring, donc on savait qu'on pouvait boxer sur la même session. Moi je me suis renseignée à l'avance à savoir combien il y avait de combats qui nous séparaient. Il y en avait trois, donc trois combats c'est ce qu'il me faut pour m'échauffer. Mmh. À partir de ce moment-là, je savais que je pouvais être dans les gradins et non pas crier pour Tony, mais au moins être là par la pensée et le regarder en direct boxer. J'en avais besoin, j'étais prête de toute façon, tout était prêt, j'avais les bandages contrôlés, le casque réglé, et il suffisait juste qu'il gagne pour me mettre sur la bonne voie.
Une dernière chose, Estelle, Tony nous a un peu expliqué ce qu'il allait faire maintenant, passage en pro, etc. Pour toi, c'est quoi la suite là?
Pour moi, la suite, pour l'instant, je ne passe pas pro, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé ma compétition au jeu, donc peut-être une autre Olympiade derrière. J'ai 24 ans, j'ai tout l'avenir devant moi, je pense, et j'ai le temps de réfléchir un peu à ce que je veux faire et à ce que sera la suite. Et je sais que je ne suis pas au bout, en tout cas, de ma carrière sportive.
Très bien. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un heureux mariage. Ça ne devrait pas être trop difficile, je pense. Hein.
Merci, c'est sûr, avec deux médailles d'or.
Merci et bravo à tous les deux, bravo. Tony Yoka, Estelle Mosselli, et bravo à toute l'équipe de France de boxe qui aura été vraiment la révélation, le moment de fraîcheur de ces jeux et qui aura enchanté toute la France et tous les Français. Merci à tous les deux et merci à Pierrick Ten aussi de vous avoir réunis au micro de l'intégrale Rio 2016. Allez, tout au long de la nuit, on revit les grands moments de ces Jeux Olympiques sur RMC avec vous au 32-16 et sur Twitter, bien entendu. On a des petits cadeaux à vous faire comme ça de temps en temps, c'est-à-dire les lives, hein, les replays des médailles. On va les revivre avec les commentaires de nos envoyés spéciaux. On va retourner quand même à la salle de basket parce que les Jeux sont pas tout à fait terminés. Il y a encore du sportif sur les parquets, François Giuseppi.
Exactement, avec les Américains qui viennent de sortir du podium à l'instant même, avec DeMarcus Cousins, le joueur des Sacramento Kings. Yeah, just a word, DeMarcus, live on the French radio. What was your feeling with this gold medal?
Qu'est-ce que vous ressentez?
Greatest feeling ever, man.
La meilleure chose que j'ai jamais ressenti.
You can really explain, but it's also a feeling that
je peux pas vraiment expliquer. Mais c'est pas un sentiment auquel on est habitué.
It is the best competition. It's more important for you now from the NBA finals.
C'est la plus belle des compétitions. Est-ce que c'est plus important qu'une finale NBA?
You know, just being on top of your game in general is an important thing to me. And this is another chance.
Être au top, c'est le plus important. C'est ça qui compte. On a gagné. On a gagné cette médaille d'or pour notre pays. C'est le plus grand honneur qu'on puisse faire.
Thank you, DeMarcus, and congratulations for your gold medal.
Voilà, DeMarcus Cousins, donc l'intérieur de l'équipe des États-Unis et de quelle franchise tu vas me dire? C'est toujours Sacramento.
Sacramento Kings, exactement, voilà. Tout à fait. Ouais.
Voilà, les stars de la NBA en direct sur RMC. Voilà, un petit cadeau de plus que l'on vous fait dans l'intégrale Rio 2016.
Hein, normalement, de stars, il y a Klay Thompson qui devrait arriver dans quelques instants avant que Kyrie Irving essaye de revenir vers nous. DeAndre Jordan qui est en train de danser dans la zone mixte, alors que Pau Gasol, Clay, just a word, Clay
Thompson, le joueur de Golden State. Non,
il m'a fait
pas
un check, hein, mais je lui ai donné ton nom, il m'a dit non, Dorian, je peux pas le voir.
C'est à cause du Tipeee Show, ça.
C'est sûrement ça. Avec également les Espagnols, hein, qui sont sortis de la zone principale et de ce podium avec la médaille de bronze autour du cou, avec Juan Carlos Navarro juste à mes côtés. Il y a Pau Gasol également, on rappelle, hein, trois nations qui remportent l'intégralité des médailles dans ce tournoi olympique, que ce soit chez les garçons ou chez les femmes. C'est le même podium, à part l'inversion Serbie-Espagne entre les garçons et les filles, hein. États-Unis, Serbie-Espagne dans l'ordre. États-Unis, Espagne et Serbie chez les filles, alors que on avait promis un peu hors antenne que c'était du grand n'importe quoi cette zone d'interview.
Oui, mais c'est pas grave, ça c'est du direct et franchement on se régale. Hein,
j'ai jamais vu autant d'officiels du service des diffusions, là, le fameux sigle OBS sauté dans tous les sens. Il y en a un seul qui fait la loi dans cette zone d'interview, c'est un moustachu avec sa crinière blanche. Ce monsieur s'appelle Craig Miller, c'est le chef de presse de Team USA et je peux vous dire que il fait absolument ce qu'il veut avec ses 12 joueurs pardon.
Et ils sont plutôt cool les joueurs, ils sont détendus,
ouais,
ou
franchement sont plus... Non, il y a des vraies photos à prendre. On voit Harrison Barnes en train de sortir de la zone d'interview justement pour aller de l'autre côté voir les spectateurs, signer des autographes. Ils ont pris des selfies avec à peu près la moitié de la salle et je peux vous dire qu'ils sont vraiment fiers. Il y a eu des images impressionnantes également lorsque le match s'est terminé. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont fait un tour d'honneur. Chacun avait un drapeau sur les épaules, un drapeau bien évidemment avec les étoiles de ce drapeau. De Team USA, alors que Carmelo Anthony est à une dizaine de mètres de moi, mais il va faire 3-4 télé normalement.
C'est la grande star de ces Jeux Olympiques. Hein,
c'est le premier basketteur de l'histoire à remporter 3 titres olympiques consécutifs. Je vais juste te rendre la parole une seconde.
Ouais, y a pas de souci.
Demander à Pau Gasol si
je vous explique ce qui se passe. On est en direct sur RMC dans l'intégrale Rio 2016. François Giuseppi est à la salle de basket où vient de se terminer le podium, donc avec la victoire des Américains sur les Espagnols. Et là, eh bien, tous les joueurs de la finale sont en train de passer dans la zone d'interview où les journalistes peuvent les interroger. Et ça a été l'une des plus-values d'RMC. C'est que pendant toute la durée de la compétition, vous avez eu droit à ces réactions à chaud et en direct, quelle que soit la nationalité et la notoriété des athlètes en question. Pau Gasol est passé au micro de François Giuseppi après le quart de finale contre la France. Vous venez d'entendre Demarcus Cousins et bien sûr vous avez eu tous les médaillés français, de Teddy Riner à Tony Yoka. Voilà, alors on va retrouver peut-être François Giuseppi d'ici quelques instants en zone d'interview. En attendant, eh bien je vous rappelle que dans l'intégrale Rio 2016,
là-haut, les gars.
Oui, François.
Ouais, avec Harrison Barnes en direct. Just a world. What a smile, Harrison. What a performance.
Grand sourire,
tonight.
Harrison, sur votre visage.
You know.
Super
We've
performance.
We've been doing for a game like this. You know, we come out and put it all together.
Ce match, on l'a fait comme on souhaitait le faire. Grande défense, très bon devant en attaque. Ça a été parfait ce soir.
What a joy. We saw on your smile you're very happy tonight. Probably more than an NBA finals, no?
It's incredible. You know, you accomplished something for your
country. C'est incroyable.
No, we come together for a month and a half.
On est ensemble depuis un mois et demi.
All together and win a gold medal and to do that.
Pour venir chercher cette médaille d'or et on l'a fait. C'est un sentiment incroyable.
We saw on your eyes, it's not a team, it's probably a family.
C'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Absolument. Il y a beaucoup de fraternité. Et on sera potes pour le restant de nos jours.
Thank you, Harrison. Thank you.
Voilà, Harrison Barnes, le joueur des Golden State Warriors, en direct sur RMC. C'est ça la magie des jeux sur RMC dans l'intégrale Rio 2016. Les réactions à chaud et en direct. Oui, François.
Ouais. Objectif, allez, on va se tenter. Objectif, Kevin Durant et Carmelo Anthony.
Voilà, allez, le package.
Hein?
Alors, on va juste prendre le temps d'accueillir Denis Masseglia, le président du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Bonjour, Denis.
Bonsoir, Pierre.
On va faire le bilan. Le bilan est bon, 42 médailles, record battu. On va prendre le temps de détailler tout cela. Alors, on vit tout en direct sur RMC. Je voudrais juste, François, que tu nous dises si il y a une chance qu'on ait Kevin Durant et Carmelo dans les prochaines minutes ou pas.
Ils sont à 1m50 de moi, c'est pas moi qui décide, ça va être le moustachu Craig Miller qui est en face de moi.
Bon, alors on va commencer doucement avec Denis avant de parler du bilan de la France. Denis, grand sourire en entendant ce qui se passe là à la salle de basket. C'est ça la magie des jeux, c'est que les grandes stars de la NBA répondent à tous les médias français, au même titre que des sportifs évidemment beaucoup moins connus, comme tous ceux qu'on a fait venir à ce micro.
À partir du moment où ils participent, c'est qu'ils aiment les jeux. Et ils ont envie de le montrer. Je pense que ça a été vrai pour toutes les stars du sport mondial qui ont été ici. C'est beau aussi comme étant l'image de l'olympisme, l'image du sport d'abord. Après, le business, c'est notre problème et ça se fait dans le courant de la saison, pas ici.
Alors, il y a une des photos de ces jeux, c'est justement Simon Biles qui a enchanté tous les amoureux de gymnastique et Michael Phelps, le plus grand, en tout cas le plus médaillé des sportifs olympiques de l'histoire, en photo côte à côte. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec les stars de la NBA en direct sur RMC quand on a reçu des Mélina Robert-Michon ou également des athlètes non médaillés, hein, parce que ça a été le cas aussi. Cette magie des jeux, c'est vraiment ce qui rend cette compétition unique.
C'est ça qu'il faut souligner. Toutes les médailles ont la même valeur, quel que soit le sport. Et à partir du moment où les athlètes partagent la même ambition, eh bien, c'est tout à fait logique de les retrouver ensemble et d'avoir une forme de respect mutuel qui unis les uns et les autres, quelles que soient les disciplines. C'est ça aussi, il y a 28 sports, et donc il y a quand même un mélange d'athlètes, 10 000 athlètes, c'est une organisation énorme, et c'est aussi quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est formidable, parce qu'on passe d'un sport à un autre, il se passe toujours quelque chose.
Exactement, il se passe toujours quelque chose. Alors, si on regarde le tableau des médailles, la France est 7e, avec 10 médailles d'or, 18 médailles d'argent, 14 médailles de bronze. On va surtout regarder l'addition, 42, le record était de 41 à Pékin. L'objectif était de le dépasser, c'est fait, donc vous devez être forcément satisfait.
Bah, ça veut dire qu'on avait les moyens potentiellement d'atteindre ou dépasser le record de médailles de Pékin. Bon, maintenant le record sera à Rio. J'avais dit aussi que la quête aux médailles d'or serait beaucoup plus difficile. Bon, je pensais qu'on atteindrait le même chiffre qu'à Londres. Bon, à une unité près, 11. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Mais c'est un beau bilan et c'était important aussi que aujourd'hui où on avait trois chances de médaille d'or, bah, il y en ait une qui tombe au moins dans l'escarcelle. Bravo, immense bravo à Tony Yoka qui a conclu de manière extraordinaire une quinzaine qui sur le plan passionnel, émotionnel a été absolument fantastique.
Alors on va rappeler quand même hein, que le vrai record entre guillemets c'était les Jeux de 1900 à Paris avec 103 médailles, 29 médailles d'or. Mais c'était dans un autre contexte et une autre compétition. Mais bon, ça compte quand même. Hein,
bien sûr, mais enfin bon, c'est on va dire que pour qu'il y ait un élément de comparaison à peu près correct, voilà, il faut prendre les jeux de l'ère moderne et en même temps dire les jeux de l'ère moderne, il y a une telle évolution depuis deux, trois Olympiades que vraiment, si on veut comparer, le virage c'est Los Angeles en 84.
Alors le bémol, donc c'est peut-être le nombre de médailles d'or qu'on espérait un peu plus élevé et des sports, deux sports en particulier qui ont raté leur jeu, la natation dans une moindre mesure et le cyclisme surtout.
Ouais, mais bon, il y a toujours un lot de surprises, parfois agréables, parfois désagréables. Il y a des fois où la roue ne tourne pas du bon côté, si je peux me permettre, en l'occurrence pour le cyclisme. Donc il faut surtout pas accabler qui que ce soit, ni les athlètes, ni tous ceux qui sont venus. Et il vaut mieux positiver sur ceux qui ont marché, parce qu'il y en a qui ont été absolument extraordinaires. Et ceux qui aujourd'hui ne l'ont pas été, l'étaient à Londres auparavant. Donc à chaque fois, si on prend notamment l'exemple de natation, on avait deux champions d'exception à Londres, Yannick Agnel et Camille Muffat.
Absolument.
Donc c'est quand vous avez des locomotives, vous pouvez aussi assurer un certain nombre de médailles. Bon, quand c'est pas le cas, ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment. Bon, on peut pas dire aussi que le cyclisme n'ait pas eu une petite malchance. Joris Daudet qui tombe,
Julien Alaphilippe qui tombe 4e. Aussi.
Voilà. Bon, on refait jamais le match. Donc la conclusion, elle est effectivement que il y a pas eu le nombre de médailles escomptées. Heureusement qu'il y a eu la vitesse par équipe.
Alors on a beaucoup parlé de la boxe et évidemment on en parle encore beaucoup ce soir avec le titre de Tony Yoka, mais il y a un autre sport qui a surperformé, c'est l'athlétisme, peut-être le sport numéro 1 d'ailleurs dans l'histoire des Jeux. Ça faisait depuis 1948 que le bilan n'avait pas été aussi bon en termes de nombre de médailles. Ça sera quand même une grande satisfaction.
Une immense satisfaction parce que l'athlétisme est le sport olympique numéro 1. Donc on ne peut pas avoir un bilan éloquent si l'on n'a pas des médailles en athlétisme. L'athlétisme français avait laissé entrevoir de très beaux espoirs à travers les championnats d'Europe et les championnats du monde disputés au cours de l'Olympiade. Bon, aujourd'hui, il y a une concrétisation avec des performances de grande qualité. Moi, je retiens, pour symboliser l'équipe d'athlétisme, la performance de Kevin Mayer, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les décathloniens. C'est le champion le plus complet. tout le monde le dit. Et c'est vrai qu'on a à travers lui le symbole d'une jeunesse qui a entraîné aussi toute une équipe. Alors dans cette équipe, ils sont tous à souligner parce que Christophe est allé chercher une médaille après de laquelle il courait. Mayadine est revenu dans nos saisons. Bon, il y a Dimitri aussi qui en prend une. Et puis Mélina qui en est à ses cinquièmes jeux, qui est mère de famille et qui arrive à prendre une médaille d'argent fantastique. Quant à Renaud, il bat le record olympique et puis il y a contre lui un extraterrestre. Alors voilà, le bilan de l'athlète, il est monumentalement bon.
Mélina Robert Michon, bien sûr, et Renaud Lavilloni. D'ailleurs, on revivra tout à l'heure le concours exceptionnel de Mélina au disque dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC. Alors, Denis Massiglia, si on prend nos grands leaders, on remarque à quel point, enfin, on souligne à quel point c'est difficile d'être champion olympique. L'équipe de France de handball, Renaud Lavilloni, Teddy Riner, Florent Manodou et Marie Rio et Billy Besson, les cinq meilleures chances sur le papier. Seul Teddy Riner a réussi à remporter ce titre. C'est très difficile d'être champion olympique.
Bien sûr que c'est difficile. Alors, d'abord, on va tirer un grand coup de chapeau à Teddy. Parce que il a été à la fois un porte-drapeau exemplaire et puis un capitaine d'équipe. Et en même temps, il a assumé son statut de favori. Et donc, il est double champion olympique de judo. Il rejoint les plus grands. Et puis, David ça Douillet. N'est pas fini. Bon, donc, même s'il n'a pas annoncé la couleur, il y a Tokyo, le pays du judo, donc on peut pas, il a envie de marquer l'histoire et je crois qu'on pourra compter sur lui pour le futur. Après, bon, Florence, ça se joue un centième, Renaud, on vient d'en parler. Un coup de chapeau absolument exceptionnel à Billy et à Marie parce que Billy, il a fait toute la course en étant handicapé, porté sur une chaise, vous l'avez
hernie
vu.
Hernie discale. Hein.
Voilà, hernie discale. C'est sûr qu'ils ont tout gagné pendant l'Olympiade et que ça n'arrive pas au bon moment. Voilà, donc on peut effectivement se dire que, mais en même temps, ça fait aussi partie de la dramaturgie sportive.
Alors dans les bémols aussi, certains nous disent c'est normal de battre le record de médailles parce qu'il y a de plus en plus de disciplines. C'est vrai, mais on peut rétorquer Denis que l'une des satisfactions de ces Jeux pour l'équipe de France, c'est que les médailles interviennent dans de nombreux sports. Hein. La palette est très large quand même. Hein.
Ouais, mais il y a deux sports nouveaux. Donc on regarde ce qui s'est passé en golf et en rugby. On est passé très près d'avoir une médaille en rugby, mais on n'en a pas eu. On est passé très près aussi d'avoir une médaille en golf avec Grégory. Donc bon, il n'y a pas eu de médaille dans les deux sports nouveaux. C'est-à-dire que si on compare par rapport à Londres, ben, on est quand même à 42 médailles contre 34 à Londres, 35 après sur le tapis vert. Ce qui veut dire qu'on a une augmentation qui est de l'ordre de 20%. C'est la même que celle qui caractérise l'effectif de la délégation.
Alors il y avait une autre compétition hein, qui se jouait en dehors des terrains, évidemment c'est l'obtention des Jeux de 2024, Paris qui est en compétition avec Rome, Budapest et Los Angeles. De ce point de vue là, l'image qu'a donnée la France sur ces Jeux, est-ce qu'elle est conforme à celle d'un pays qui veut obtenir l'organisation des Jeux Olympiques?
Bon, on est 7e nation au classement des nations avec, une, vous le savez, un classement qui privilégie le nombre de médailles d'or. Bon, on est 5e nation s'il s'agit de regarder le nombre total des médailles, et je crois même qu'on est 4e, j'en suis pas sûr. Et puis
5e à égalité avec l'Allemagne.
Voilà, 5e à égalité, on a forcément avec les résultats sportifs de quoi indiquer que la France est un pays sportif. Et puis vous l'avez vu ici puisque vous êtes installé au Club France, on a montré qu'on était capable d'accueillir le monde entier et tous les athlètes sont venus ici. J'espère qu'ils viendront ce soir malgré les conditions qui sont un peu dantesques parce qu'on essuie
hein.
Un orage et du vent en même temps. Ça va être peut-être délicat aussi pour la cérémonie de clôture. En tout cas, on a fait tout ce que l'on pouvait faire pour montrer que la France, pays sportif, pays avec des athlètes magnifiques, pouvait être remarquable sur le plan de l'accueil des Jeux. Voilà.
Alors la prochaine étape, c'est dans un an, un tout petit peu plus d'un an, à Lima pour la désignation. D'ici là, est-ce qu'il y a encore des étapes importantes? Parce que ici, c'en était une. C'était peut-être la dernière grande étape. Bon, évidemment, il va falloir continuer de vendre la candidature entre guillemets. Mais avant Lima, est-ce qu'il y a d'autres points essentiels? Peut-être l'organisation des Mondiaux de handball en France.
Ici, c'était une étape importante dans la mesure où tous les membres du CIO sont présents. C'est la seule étape d'ici le vote de Lima où tous les membres du CIO sont présents. Il fallait donc leur montrer que nous étions, nous aussi, à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'olympisme. Après, il va y avoir d'abord le congrès de l'Association des comités nationaux olympiques où on aura la première présentation. Quatre candidatures seront là pour présenter dans l'ordre qui a été tiré au sort, hein, Los Angeles, Rome, Budapest, Paris. Nous passons en dernier. On était passé en premier en 2005 à Singapour. Bon, j'espère que ça nous portera chance. Et puis, après, il y a effectivement des événements sportifs à travers lesquels on peut arriver à montrer en tout cas l'excellence de l'organisation sportive. Il y a les mondiaux de hand, il y a les mondiaux de lutte qui se situent juste 10 jours avant. Bon, et puis il y a tous les événements récurrents que l'on a en France et qui nous permettent aussi de montrer la capacité d'organiser. Mais je crois qu'au-delà de la capacité d'organiser, dont personne ne doute quelque part, il y a aussi montré l'envie que la France a d'accueillir le monde sportif, le monde entier, et de célébrer les Jeux et l'Olympisme.
Et de ce point de vue-là, en tout cas ici au Club France, ça aura été une réussite. Un dernier mot, Denis Masseglia. Vous, personnellement, quelle image vous retiendrez de ces Jeux?
Ah, je sais pas, il faudrait, il y en a tellement, ça s'est tellement bousculé, ça a été tellement extraordinaire, sur tous les plans. Je voudrais pas dissocier quelque chose par rapport à tout, c'est un ensemble, ça a été formidable et peut-être que je retiendrai, moi, le fait que, à la cérémonie d'ouverture, il n'y a jamais eu autant d'athlètes français qui ont défilé derrière Teddy. Ça a été formidable, magnifique, et c'est peut-être ça qui a tout lancé. Voilà. Merci à vous, à RMC, pour avoir fait vibrer tout le public français, et puis avoir permis le partage d'émotions, parce que le sport, c'est aussi ça, du partage d'émotions et de passion.
Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on va continuer de les vivre, hein, ces émotions. Avant de vous remercier, Denis, vu qu'on est au Club France, et que c'est aussi d'ici que tout est parti pour nous, hein, sur RMC. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du entre guillemets bilan du Club France, parce qu'on sait que c'est aussi un défi à réaliser. Il y a eu Londres, il y a maintenant Rio. D'un point de vue populaire, c'est une magnifique réussite. On sait aussi que ça coûte beaucoup d'argent et que donc chaque fois c'est remis en question. Hein. De ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les prochaines échéances, notamment à Tokyo?
Alors. Premièrement, ici, on avait fait le pari d'ouvrir au monde entier. Beaucoup de gens sont venus, qu'ils soient brésiliens ou étrangers. On a eu une fréquentation moyenne de l'ordre de 8000 personnes par jour. Bon, ouais. C'est quand même
énorme.
Un succès, c'est énorme. Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'athlètes. Moi, je suis très, très heureux du fait que tous les athlètes français sont ici le soir. C'est quand même important, c'est quand même énorme. Donc, pour ce qui est maintenant des comptes, puisque vous en parlez, on n'a jamais dit que le Club France devait être utilisé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit dans les clous du budget que l'on a voté à l'Assemblée Générale de 2016 et qu'effectivement, si on considère que le Club France est un outil de promotion et de communication et de rayonnement international, il n'est pas forcément nécessaire que du côté de la colonne recette, il y ait les mêmes chiffres que du côté de la colonne dépenses. Je vais vous dire une chose. À Pékin, où on n'avait pas un club ouvert, où on avait un club sur invitation, il y a eu quand même des dépenses qui sont plus importantes que ce qu'on fait ici, où on a un club ouvert et où on montre que la France veut accueillir le monde entier.
Oui, et puis de toute façon, le contexte n'était évidemment pas du tout le même, et l'ambiance moins festive quand même à Pékin qu'à Londres,
et puis,
ou ici même.
Et puis pour Tokyo, je vais vous répondre oui. Pour Tokyo, je formule le vœu que ce soit pas le comité olympique qui l'organise et que ce soit Paris 2024.
Très
ça
bien.
Voudra dire qu'on aura gagné.
Ça voudra dire qu'on aura gagné. On va rester sur ce souhait et sur ce vœu. Merci beaucoup Denis Masseglia, président du comité national olympique et sportif français. Le bilan, je vous le rappelle, 42 médailles, 10 en or, 18 médailles d'argent, 14 médailles de bronze. La France est 7e au tableau des médailles. Un tableau remporté, comme c'est quasiment le cas à chaque fois, par les États-Unis devant la Grande-Bretagne, qui bénéficie certainement encore de l'organisation des Jeux de Londres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le sport français souhaite accueillir les Jeux en 2024. Oui, Denis Masseglia veut rajouter quelque chose.
Non, il faut juste en 96, il y a 20 ans, une seule médaille d'or. La Grande-Bretagne.
Oui.
En 20 ans, ils se sont hissés au deuxième rang mondial avec 27 médailles d'or. Avec 26 de plus. C'est énorme.
Voilà.
C'est tout simplement énorme. Et c'est aussi, effectivement, ce que l'organisation des Jeux a pu déclencher. Voilà, vous avez compris qu'on croise les doigts.
Merci beaucoup Denis Massiglia. On continue bien sûr de faire le bilan aussi avec vous au 32-16 et sur Twitter de ces Jeux Olympiques et à revivre les grands moments pour la délégation française, notamment en revivant les commentaires en direct de nos reporters et envoyés spéciaux avec la Dream Team bien entendu. Il est 23h35 sur RMC. C'est l'heure du Flash Olympique.
RMC, Rio 2016.
Avec Benoît Boutron.
Et Tony Yoka a conclu ses Jeux Olympiques de la meilleure des manières. Le Français est devenu champion olympique de boxe en battant le Britannique Joe Joyce en finale. Une première depuis Ibrahim Asloum en 2000 à Sydney. Tony Yoka qui forme un couple en or avec Estelle Mosselli, elle aussi titrée à Rio. Une sacrée récompense pour toute l'équipe de France de boxe.
Et on est une équipe qui bosse dans l'ombre depuis pas mal de temps. On n'avait pas eu de résultat en 2012. Ça fait quelques années qu'il y a eu un petit creux là. Là, on a sorti la tête de l'eau depuis les Jeux de Bakou. Je suis devenu champion du monde. Estelle est devenue championne du monde. On a montré qu'il fallait compter sur nous. On était vraiment une grosse équipe, très très solide et qu'on pouvait faire beaucoup de résultats. On a 6 médailles sur 10, dont 2 en or. C'est juste magnifique.
Tony Yoka en direct sur RMC. Des regrets pour les handballeurs français battus 28 à 26 en finale par le Danemark. Aujourd'hui, pas de triplé historique pour les experts. Nicolas Karabatic a terminé cette compétition avec un peu d'amertume.
C'est comme ça, je pense qu'on avait le match, on était bien de rentrée, on jouait bien, concentré, on les a fait douter dès le début. Et à partir de la 15e, 20e minute, on a commencé à piquer un peu du nez, on fait des erreurs qui les remettent dedans, des erreurs bêtes, des tirs ratés. Et là, eux, ils se chauffent, ils étaient en totale confiance, ils ont rentré des tirs avec barre rentrante à 10 mètres. Voilà, ils étaient en réussite, ils sont passés devant. En deuxième, on a couru derrière le score. Je pense qu'on a laissé beaucoup de jus. Et on n'a pas réussi à revenir alors qu'on aurait pu avoir les occasions. Maintenant, voilà. C'est comme ça. Il fallait bien qu'un jour on perde. Le Danemark a bien joué aujourd'hui. Il faut leur rendre ça.
Nicolas Karabatic avec Antoine Arlot. La France termine 7e du classement des nations avec 42 médailles, 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. La cérémonie de clôture de ces JO sera à suivre en direct dès minuit sur RMC.
Toute l'actualité sportive de Rio avec les hôtels Baladins. Trouvez l'hôtel Baladin qu'il vous faut sur baladin.com.
Et on vous accueille au 32-16. Jean-Paul est avec nous. Avant ça, on va se faire un petit plaisir rapide. Les médailles d'or et d'argent du concours complet en équitation. L'or par équipe et l'argent en individuel pour Astier Nicolas. C'était le mardi 9 août sur RMC.
Un obstacle à passer, un obstacle Astier pour essayer d'aller chercher cette médaille. C'est bon, c'est pas sans faute. Zéro pénalité, 69,44 secondes. Ça sent très bon pour les Français. Ça sent très bon pour les Français. Ils vont aller la chercher cette médaille. Et le dernier obstacle qui passe sans défi. Ah, une barre qui est tombée, j'avais pas vu Gilbert. 8 points de pénalité, c'est confirmé. La France est championne olympique du concours complet par équipe. Allez, l'avant-dernier obstacle pour Astier. Il y reste un dernier obstacle à parcourir. On regardera le score. Et ensuite, il faudra être resté suspendu. Allez, une petite erreur encore. 6 points de pénalité pour Astier qui termine en 64-38. Astier Nicolas remporte une deuxième médaille aujourd'hui. C'est une médaille d'argent pour l'équitation française. C'est la troisième médaille pour l'équipe de France Olympique aujourd'hui. Et elle est très belle, cette médaille. En 2012, on n'avait pas de médaille en équitation. Aujourd'hui, on en rapporte deux.
Et il y en a une de plus en or, bien sûr, pour l'équipe du saut d'obstacle. Hein. Et tout cela, évidemment, jusqu'à 4h du matin. On aura le temps de le revivre et de le savourer. Jean-Paul nous appelle au 32-16. Salut Jean-Paul.
Oui, salut. Bien, bonsoir tout le monde.
On t'a fait patienter, hein, parce que Denis Massiglia était avec nous. Désolé, mais on a toute la nuit pour refaire les JO.
Au contraire, je voulais réagir sur ce qu'il venait de dire. Donc là, c'est bien. Je suis aussi content qu'on ait battu le record de médailles, mais il y a une chose que Denis Massiglia a oublié de dire, c'est qu'en athlétisme, on a bien performé au JO cette fois-ci, mais il n'y a pas une fédération qui a été suspendue cette année au JO?
Tu veux dire la Russie?
Ah oui, la Russie, personne n'en parle.
Alors la Russie en athlétisme,
ça vaut quoi?
Alors, on a fait le bilan justement avec le DTN Gany Yalouz. Ils sont très forts chez les femmes, pas tant que ça chez les garçons. Donc ça a effectivement pu jouer dans les résultats féminins. Ça n'enlève rien au fait, par exemple, qu'une Mélina Robert-Michon a battu son record de France pour être médaillée. Donc son concours, elle l'a fait. Hein.
Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais on occulte totalement le fait qu'il y ait un pays avec une délégation qui a été suspendue. Moi, je veux bien, mais il y a eu des disciplines où on a terminé troisième. Avec les Russes, ça aurait peut-être été différent.
Kevin Mayer, par exemple, je pense qu'un Russe Kevin de Mayer, plus, non, là, ça prends, n'aurait rien changé. Écoute, on a qu'à prendre les 6 médailles. Et franchement, ta réserve, elle est totalement légitime, hein, parce que j'en ai moi-même parlé au DTN Gany Yalouze. Je t'avoue que sa réponse m'avait plutôt convaincu. Alors, Mélina Robert-Michon, effectivement, il y a une Russe qui est lanceuse de disque, qui est performante, mais avec son lancer, une médaille d'argent olympique, je veux dire, il y a absolument rien à y redire. Christophe Lemaitre, ça n'aurait rien changé. Kevin Mayer, ça n'aurait rien changé.
Pierre, ça n'aurait rien changé en finale, peut-être. Mais tu sais qu'avant d'accéder au final, il y a des séries.
Oui, mais le truc, c'est que si tu n'es pas performant, tu ne peux pas faire de médaille. Voilà, ça c'est une première chose. Donc l'équipe de France d'athlée a été ultra performante. Qu'il y ait eu la Russie ou pas, ne change rien au fait que l'équipe de France d'athlée a réussi ses jeux. Après, ça aurait peut-être modifié légèrement un résultat, deux résultats, c'est possible. Mais Russie ou pas Russie, l'équipe de France d'athlée aurait réussi ses jeux. Tu peux me l'accorder quand même.
Oui, non, mais quoi qu'il en soit, moi je suis content des jeux, je suis content des résultats, je suis surtout content des médailles sur lesquelles on s'y attendait pas, parce que moi j'en veux par exemple handball, les filles handball qui m'ont régalé. Le match notamment contre l'Espagne où elles étaient au fond du trou, quand elles ont remonté, les filles en basket c'est pareil, bon elles n'ont pas, d'accord, elles n'ont pas eu de médaille, mais bon il y avait quand même Céline Dumère qui était forfait, mais elles nous ont fait vibrer. Denis, même chose, il n'a pas eu de médaille mais il a été au bout de lui-même. Donc je trouve que sur cette dernière semaine, on a l'image de la France a été, on va dire, a été plus belle que celle des débuts des Jeux Olympiques, parce que quand on a assisté au début des Jeux Olympiques où tout le monde se tirait dans les pattes, où on avait cette réputation d'être un peu mauvais perdant, quand on voyait les sportifs devant les médias se balancer des trucs, enfin voilà quoi. Et là, je trouve que 42 médailles c'est bien. Par contre, moi il y a une chose quand même que je relève. Teddy Riner, super, je suis hyper content pour lui, mais il a eu du mal.
Quand on voit la finale du handball aujourd'hui, c'est très difficile d'être champion olympique, même quand on est Teddy Riner. Hein.
Non mais justement, laisse-moi terminer. Je ne voudrais pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que le jour où Teddy Riner arrête, il n'y a rien derrière.
Non, tu peux pas dire qu'il y a rien derrière quand il y a 42 médailles. Alors, c'est sûr que il faut toujours des champions d'exception pour être champion olympique et que c'est pas forcément révélateur de l'état du niveau sportif d'un pays, mais tu peux pas dire qu'il y a rien derrière quand il y a 42 médailles, justement.
Je parle au niveau de sa compétition à lui, je parle pas au niveau de son sport à lui.
Mais oui, d'accord, il y a peut-être pas de poids lourd de ce niveau-là derrière Teddy Riner, mais honnêtement, on va pas commencer à se plaindre que Teddy Riner écrase tout, et y compris en France.
Tout le monde. Non, mais moi, ce qui me là, quand je vois les politiques qui commencent à se féliciter les uns après les autres de ci de ça, et que tu as des fédérations comme le disait fort justement Brahim Assoum, qui ont très peu de moyens, et que les politiques essayent de s'emparer de ça pour dire bravo, alors que les pauvres sportifs ont du mal à se préparer. D'ailleurs, il y a un boxeur qui a refusé d'aller au JO par manque de préparation.
Oui, Kedafi Djelkir, oui.
Voilà. Tout à fait. Et c'est pas. Et donc. J'attire l'attention sur le fait que tout n'est pas rose. C'est bien parce qu'on a 42 médailles, mais il faut mettre aussi en avant la relève, parce que on s'est aperçu que y a certains sportifs qui n'étaient pas au rendez-vous, et la relève, on va avoir du mal à la combler, et que on parlait du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Quand on voit eux, je sais pas comment ils font, je sais pas quel est leur système au niveau des sportifs, je sais pas comment est leur financement. Mais ils sont toujours là au rendez-vous, quoi.
Merci Jean-Paul. Alors, dernière réponse sur les Russes, et c'est vrai que c'est quand même important de le dire, Laurent Linconnu nous dit en même temps la Russie est suspendue, il y a une raison. Effectivement, la raison c'est le dopage, hein. Donc s'ils performaient aussi, c'est quand même grâce à ça. Hein. Oui,
juste pour terminer, le relais 4x100 américain, Tyson Gay et
Justin Gatlin.
Ça choque personne.
Voilà. Si, ça choque certains. D'ailleurs, ça a été dit hein, dans ces Jeux Olympiques, mais le règlement fait qu'ils ont le droit de participer. Donc, à partir de ce moment-là, si on n'est pas content, il faut changer le règlement, Jean-Paul. Voilà. Mais ça fait partie des débats et des polémiques de ces Jeux Olympiques. Merci pour ton appel, Jean-Paul, au 32-16. Si vous aussi, vous voulez venir commenter ces Jeux Olympiques, les résultats, les déceptions, les grandes joies, les exploits de l'équipe de France, vous êtes les bienvenus au 32-16 et sur Twitter. Alors, justement, tiens, une grande joie, ça a été la médaille d'argent de Mélina Robert-Michon, sacrée après ses 5e Jeux Olympiques à 37 ans, médaillée d'argent et vice-championne olympique du disque. On revit ça en direct sur RMC, c'est l'intégrale Rio 2016.
Le 5e et avant-dernier essai, Mélina Robert-Michon qui pour l'instant est 2e de la finale du disque féminin. Pourquoi pas améliorer. Allez, Mélina, on va se lever. Tiens, Maryse, on va se lever, on va pousser avec Mélina, même si on est très fatigué.
Reste bien alignée, voilà.
Allez, Mélina, améliorer. Son premier essai de 65m52 pour Mélina. Ça sera au-delà. Ah si, oh Maryse, on va voir. Je pense que c'est mieux.
66, tu crois?
Non, je pense qu'elle bat son record sur cette finale du disque. On va être patient. On va prendre 10 secondes. Ça va s'afficher sur l'écran. Mais je pense qu'elle améliore sa marque de son premier essai. Elle était restée à 65m52. Maryse, dans quelques secondes, on va voir si elle fait mieux.
66 mètres, record
de France pour Mélina Robert-Michon.
Elle est énorme.
44 cm de mieux que son propre record de France. Elle réalise le concours de sa vie au meilleur moment. À 37 ans, Mélina Robert-Michon conforte sa deuxième place. Sa possible, très possible désormais, médaille d'argent olympique à 37 ans.
Énorme, Mélina. Énorme, énorme.
Record national.
Elle se rapproche même tellement que ça devient moins ridicule face à Sandra Perkovic. C'est-à-dire qu'elle assure pour l'instant, en tout cas, elle conforte sa médaille d'argent et elle se rapproche de Perkovic qui est évidemment, qui semble intouchable sur le papier, 60m08. Allez, fais-nous une Thiago Braz, Mélina.
Mélina Robert-Michon vient de battre le record de France, son propre record de France, celle-là. 16 fois championne de France, vice-championne du monde en 2013, qui réalise pour ses derniers et 5e Jeux Olympiques le concours de sa vie. L'histoire est belle. On va rester patient.
3 mètres, donc Mélina, elle a eu une maturité tardive. C'est une jeune fille qui a été découverte vers 15
3 mètres,
ans.
3 mètres, ça paraît énorme, Maryse, quand même.
Bien sûr, mais c'est aussi énorme que 10 cm sur la perche, je te garantis.
Bah ouais.
Qu'on a découvert vraiment sur le tas. Ses entraîneurs ont été très patients avec elle. Elle a une magnifique technique. Elle a surtout, franchement, elle est d'une modestie, d'une
génial,
concentration,
ouais.
d'une présence incroyable. C'est vraiment, pour moi, la très grande leader de l'équipe.
Alors, faisons un point. Il reste pour les huit finalistes, il reste un essai à chacune.
Alors, attends, non, soyons précis, puisqu'il y a encore quatre. Non, c'est bon, exactement. On vient de finir à l'instant avec Perkovic.
Mais tu fais pas confiance.
Plus qu'un essai.
Et donc, à partir de maintenant, on va commencer à décompter.
Et là, je peux dire que.
Alors, on reste avec vous, bien sûr. Parce que là, on a une deuxième médaille à l'athlée et on sait ce qu'elle va, la même médaille à l'athlée. Il faut aller se les chercher, celle-là.
Et particulièrement dans les lancers.
Ah ouais, parce que.
Particulièrement dans
pour l'équipe de France, elles sont tellement précieuses sur des mondiaux et encore plus sur des Jeux Olympiques. On rappelle qu'on a fait 2 médailles il y a 4 ans à Londres. On en aura une 3e après la disqualification d'un relais pour le 4x100m français. Mais voilà, pourquoi pas une médaille pour Mélina Robert-Michon qui avait hésité à s'arrêter après Londres. Mais finalement, elle s'est dit je continue. Elle a eu raison parce qu'elle a fait vice-championne du monde un an après et elle voulait venir jusqu'à Rio ici. Elle a été à Moscou également, juste derrière aux mondiaux. Elle voulait pousser jusqu'à Rio à 37 ans, l'une des doyennes de l'équipe de France d'athlétisme.
Mon
elle est deuxième
Dieu
pour l'instant. Allez,
mon
on regarde
Dieu,
Bin Feng qui vient de terminer son concours, son 6e et dernier essai.
Il y avait 3 chinoises d'ailleurs dans cette finale.
61m85. Donc déjà, elle est sûre de finir parmi les 7 premiers. Mais nous, on s'en fout qu'elle finisse parmi les 7
arrête
premières.
Arrête de dire, on s'en fout.
Mélina Robert-Michon, moi je m'en fous complètement.
Ça va faire plaisir, tu vas siffler bientôt passe. Aussi. Vas-y, siffle les concurrents. Et ce serait une médaille.
Elle a mordu Yang Chen.
Depuis Michelin.
Donc là, elle est dans les 6 maintenant.
Donc là, elle est dans les 6, voilà. C'est sûr. Elle est au pire 6e alors que Justine Gatlin se présente sur la ligne de départ d'une série du 200 mètres.
On s'en fout de Justine Gatlin.
We don't care. And we did not move.
Et je disais qu'il n'y a
il
pas eu
que
de
Justine
médaille.
Gatlin a dit, mais qui c'est Nicolas Jamin?
Oui, il a dit ça.
Il n'y a pas eu.
Nick the Jam, il a dit.
Allez, on s'en fiche de vos histoires. Il n'y a pas eu de médaille olympique au lancer du 10 depuis
Nadine
Michelin.
Miller, c'est une cliente.
C'était en 1952, Micheline Ostermayer, qui avait été championne olympique sur plusieurs disciplines, qui avait eu des médailles
t'as
en
raison.
Hauteur, au disque, au lancer du
oh là là, attention, Micheline Mayer, c'est court,
et
même
non, c'est
pas,
court
même
aussi.
Pas mesuré parce qu'elle est au-delà des limites, en dessous de
ça
60 mètres.
S'approche.
Nadine Müller, hein, qui était meilleure cette saison que.
Donc elle est dans les 5 Michon. Maintenant, elle est dans
elle
les
est
5.
Dans les 5 maintenant. Donc voilà, maintenant, on égrène les concurrentes pour leur dernier essai. Place à l'Australienne, Dani Samuels.
Totalement excitant cette affaire.
On va se calmer un peu. Parce que là, il y a l'Australienne Denise Samuels qui, elle, a un record personnel à 67m99. C'est mieux que Mélina Robert-Michon dans sa carrière. Pas aujourd'hui en finale, puisque pour l'instant, elle n'est que cinquième, Denise Samuels. La voici, là, l'Australienne avec sa combinaison jaune et verte qui s'installe dans la cage et dans le cercle. Elle va, dans quelques secondes, effectuer son sixième et dernier essai. On rappelle que si elle fait mieux que 66m73, elle passera devant Mélina Robert-Michon. Pour l'instant, deuxième de son concours. Et juste après, il y aura une Chinoise. Et juste après, il y aura surtout la plus grosse menace pour la Française, la Cubaine, Denia Caballero, championne du monde en titre. Pour l'instant, troisième seulement de ce concours. C'est parti pour l'élan de l'Australienne. Ça part mal. Non, c'est bon. Et avant même qu'elle finisse, on sait déjà. Attention, Marc. Il y avait de la profondeur. Pas de hauteur, mais de la profondeur. On va attendre la mesure. Je suis plutôt confiant. Est-ce qu'elle va dépasser la Française, Mélina Robert-Michon? On rappelle.
Pendant ce temps-là, Gaxine a géré sa série du 200. Elle a gagné tranquille.
73, ouais, en 20 secondes, 42 centimes. C'est pas le meilleur temps pour l'instant. On a vu un très impressionnant Yoann Blake, également le Jamaïcain, dans la série numéro 3. Alors, 64m90 pour Denise Samuels. Ça tient toujours. Plus que 4 concurrentes désormais.
Elle est dans les 4.
Sûre d'être dans les 4 maintenant.
C'est
Mélina Robert-Michon. Mais
incroyable.
On attend le podium. La Chinoise, Xinu Su. Et là, c'est important parce que si la Chinoise, oui, Xinu Su, fait pas mieux que 66m73, Mélina Robert-Michon sera médaillée, assurée du bronze ou de l'argent, voire de l'or si elle dépasse également Perkovic. C'est déterminant ce qui va se passer. La voici, la Chinoise, qui a déjà jeté à 65m59. Elle n'a jamais fait mieux dans sa carrière que les 66m73 de Mélina Robert-Michon réalisés aujourd'hui. Elle est la discobole chinoise dans la cage, la course d'élan de la Chinoise. C'est parti, attention, on regarde la marque. Mélina Robert-Michon est médaillée olympique.
Elle est médaillée olympique.
Mélina Robert-Michon, pour la première fois de sa carrière,
on a pas encore le métal,
à 37 ans, est médaillée olympique. Elle avait hésité à raccrocher il y a quelques temps. Elle a la serviette sur la tête. On est ému pour elle, évidemment.
Il faut qu'elle reste dans son concours. C'est énorme ce qu'elle vient de faire.
Peut prendre, pourquoi pas, une médaille d'or. Ce sera dur, mais en tout cas, le bronze est assuré. Elle est deuxième actuellement. L'argent aussi est possible. La Française, Mélina Robert-Michon. On va regarder maintenant la Cubaine, Denia Caballero, qui pourrait déloger de la deuxième place olympique Mélina Robert-Michon. On rappelle, il ne faut pas que la Cubaine, championne du monde en titre l'an dernier à Pékin, je lance son disque à plus de 66m73. On est debout, évidemment.
Et rends-toi compte, il n'y a eu que 3-2 médailles dans l'histoire des Jeux Olympiques du lancer du disque. C'était avec Jacqueline Mazéas en 1948.
Marie, elle est émue,
je vous le dis. Hein. Et j'en ai des frissons, j'en ai.
Attention, Caballero, ça part loin.
Oh, c'est
ça
parti
part loin.
C'est parti loin, mais ça va être un petit peu en dessous.
Ça va jouer à quelques centimètres, je dirais. Quelques dizaines de centimètres.
Jacqueline Micheline Ostermeyer en 1952, championne olympique du lancer du disque. Et en 2016, on a Mélina Robert-Michon qui est médaillée. Médaillée, on attend la couleur.
Allez, c'est important là, peut-être l'argent si on nous annonce moins que 66m73. La médaille d'argent pour Mélina Robert-Michon.
Et c'est l'argent assuré pour Mélina Robert-Michon
au minimum. Mais ce sera déjà génial si on en reste là. C'était pas inespéré, mais c'était pas forcément attendu. Mélina, 37 ans,
vice-championne olympique,
les plus sympathiques de la délégation française.
Vice-championne olympique, Mélina, tu l'as fait. Allez, continue.
Allez, on sait jamais. Mélina qui se présente désormais dans la cage. Mélina Robert-Michon pour son sixième et ultime essai. On rappelle qu'elle a pour l'instant lancé son disque à 66m73. Elle a balayé son propre record.
Donc
de France.
Là, il faut qu'elle explose tout pour faire un truc qu'elle a jamais fait de sa vie, hein, pour gagner l'or.
Parce qu'elle bat son record actuel de plus de 3 mètres pour l'or olympique. Ça part bien. Il y a de la hauteur peut-être pour Mélina Robert-Michon. Ça part bien. Elle va peut-être améliorer. Il est possible qu'elle améliore son record national. Mélina Robert-Michon, mais c'est sûr, c'est que ce sera l'argent pour la Française. Elle est en larmes, comme toi, Maryse. Elle a les mains sur la tête, elle est en larmes à 37 ans.
Elle a réalisé
le concours de sa vie. C'est pas grave, on s'en fout. C'est l'argent pour Mélina Robert-Michon.
Elle a eu raison. Elle est vice-championne olympique, Mélina.
Elle a eu raison de pousser.
Elle est vice-championne olympique. C'est
4 ans de plus. Mélina Robert-Michon, c'est une sensation. Tu l'as dit, Gilbert, tout à l'heure. C'est tellement dur pour l'athlète française de monter sur un podium mondial ou olympique. Mélina, l'histoire est somptueuse parce que Mélina, elle a 37 ans. Ça fait 20 ans qu'elle lance le disque. Ça fait 20 ans qu'elle essaie de se rapprocher des meilleurs. Elle avait réussi en 2013 avec l'argent aux mondiaux. cette fois-ci, avant de raccrocher certainement elle, qui traîne tout le monde derrière elle depuis quasiment 20 ans maintenant, dans le jet féminin, que soit le marteau, le disque ou le poids, eh bien, elle décroche une médaille d'argent, la deuxième médaille olympique pour l'équipe de France d'athlétisme, mais c'est pas terminé après l'argent de David Lenny. L'argent pour Mélina Robert-Michon.
Lancer du disque, mais bien sûr pour les lancers tout court. Pour les lancers tout court, il n'y a pas eu de médaille depuis 1952. Et Perkovic est championne olympique et Mélina Robert-Michon est vice-championne olympique. 69 mètres 21 pour Sandra Perkovic. La double championne olympique, et Mélina Robert-Michon. La française Mélina Robert-Michon qui est en argent. Qui est en argent. Non,
c'est...
66 mètres.
C'est énorme.
L'émotion de Maryse Evangé-P, la médaille d'argent de Mélina Robert-Michon au lancer du disque. Il est 23h55 sur RMC. Il a encore un peu d'énergie. Brahim Asloum nous rejoint après avoir vécu une grande journée au ring olympique, puis être passé sur le plateau de France Télévisions. Enfin, il est à mes côtés au Club France. Brahim.
Yes, je suis là.
Trop
Pierre.
Content.
Je suis aux anges, je suis heureux, je suis fier de cette équipe de France, fier de ce qu'ils nous font, et ce qui fier de Tony. Si t'imagines,
c'est le premier
le
poids
plus
lourd
grand champion poids lourd que la France n'ait jamais eu.
Et
champion
pourtant,
olympique, je vais répéter, champion olympique de la jeunesse, champion du monde amateur, champion olympique 2016. Poids lourd, t'imagines que le monde entier nous envie. C'est la catégorie reine.
On a eu des grands poids lourds, on a eu des grands boxeurs, on a eu quelques grands poids lourds, mais très peu. C'est quand même une catégorie dans laquelle on est assez pauvre en France. Tiens, la référence, il en a parlé tout à l'heure, c'est Anthony Joshua, qui était champion olympique il y a 4 ans à Londres, le Britannique, et qui déjà a une ceinture mondiale en pro. Hein. Il est champion du monde IBF, donc peut-être qu'un jour lui aussi pourra tenter d'unifier les ceintures. Et peut-être qu'un jour on aura un Anthony Joshua, Tony Yoka, à Las Vegas, devant des millions et des dizaines de millions de téléspectateurs.
Sincèrement, son parcours se dessine de cette manière. Maintenant, à lui de faire un sans faute, à nous d'être bienveillants vis-à-vis de nos champions et en particulier Tony, parce que voilà, c'est une catégorie qui est très très spécifique. Voilà, faut le préserver, faut le faire progresser. Et moi, je suis persuadé qu'il est amené, en tout cas, quand t'es champion olympique, t'es amené à faire ses grands rendez-vous et dans la catégorie reine, comme j'ai pu le dire. Donc ouais, il va rencontrer ses grands champions.
C'est important d'expliquer ça, Brahim. Il va pas demain. Enfin, quand je dis demain, il va pas dans 6 mois ou dans 1 an disputer un championnat du monde. Hein. Tony, il va falloir qu'il apprenne encore beaucoup, qu'il fasse plusieurs combats. On passe pas de 3 fois 3 rounds à 3 rounds de 3 minutes. Comme ça, en 12 rounds de 3 minutes, hein. Ça va doucement la boxe.
Moi, je l'ai subi. Après mon titre de champion olympique, tout le monde était persuadé que j'allais faire un championnat du monde le lendemain et que j'allais le gagner. Non, 3 rounds de 3 minutes et 12 rounds de 3, c'est deux mondes différents. Les qualités pour le devenir, il les a. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Il faut des adversaires qui vont lui permettre de progresser, des adversaires qui vont lui donner de l'expérience, des adversaires qui vont l'endurcir. Voilà, ça va passer par plein de combats et puis voilà, il est programmé certes pour pouvoir faire un championnat du monde WBA, IBF, WBO ou WBC, ça on n'en doute pas une seule seconde, mais pour ça, il y a des marches à gravir. Le meilleur exemple que je donnais, c'est ce que je prenais moi pour expliquer au plus grand nombre, c'est comme si vous sortiez majeur d'une promotion, on va pas vous donner les plus gros contrats tout de suite. D'abord, vous donner des petits contrats, vous faire la main et ainsi de suite, faire tes preuves. Ben là, c'est pareil, il va y avoir des combats, pas faciles, mais des combats difficiles, parce que quoi qu'il arrive, c'est les champions olympiques en titre. Et quand vous avez un boxeur en face de vous, ben, je peux vous dire qu'il veut se faire le champion olympique. Donc lui, ça va être difficile. Mais c'est un champion, donc quand t'es champion, ben, t'as pas le choix, c'est comme ça.
Un autre exemple, ça fait depuis ses 18 ans qu'on sait qu'il a un gros potentiel. À 18 ans, il gagnait pas encore beaucoup de combats, c'était il y a 6 ans. Voilà, 6 ans après, il est champion olympique. Hein.
Ouais.
Il était déjà à Londres, il a perdu au premier tour. Son apprentissage, il l'a fait en boxe olympique. Maintenant, il faut qu'il le fasse en boxe professionnelle. Disons un mot quand même de la finale face aux Britanniques. Ça a été un peu moins dur et serré que contre Ergovic en demi-finale.
C'est différent. Ouais.
Mais au premier round, c'était très très serré et c'était pas gagné d'avance. Hein.
Ouais, c'était pas gagné d'avance et on a rarement vu Tony Yoka commencer un combat de cette manière où il est resté au centre du ring. Il a accepté de prendre des coups, donc il les a bloqués intelligemment. Il avait les mains très hautes. Il est arrivé à répliquer avec son direct qui est merveilleux pour toucher son adversaire. Au final, c'est l'anglais. Là où on s'inquiétait sur l'anglais, c'est qu'on savait qu'il finissait extrêmement fort ses combats. C'était une vraie brute, quoi. C'est la force, une vraie force, il est très massif. et ben il a été débordé. En fait, le fait que Tony ait résisté à ses charges, et ben il l'a mis dans le rouge. Il l'a mis dans le rouge l'anglais, et puis à partir de là, et ben je dis pas qu'il s'est simplifié, mais il a fait son travail. En plus, en acceptant l'épreuve de force, quoi. C'est ça qui est beau dans ce combat-là. Contre Philippe, c'est différent parce qu'il avait ses jambes en demi-finale, il a pu se déplacer. On a vu qu'à la troisième reprise, et ben les coups étaient beaucoup plus en plus violents de la part du Croate, mais il a aussi tenu bon, il s'est tordu la cheville. Et voilà, il a su faire cette finale avec ce petit problème à la cheville et ça l'a rendu encore meilleur.
Alors on va y revenir bien sûr parce que la petite histoire qu'on ne savait pas, c'est que la blessure à la cheville est plus importante que ce que l'on pensait. Brahim Asloum dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC. On revient juste après les infos. Il est 23h59 sur RMC.
Intégrale Rio 2016 avec Atos en direct du pavillon RMC.